la Bible, on voit beaucoup de symboles, beaucoup d'images qui nous expliquent un peu plus du caractère de Dieu, de sa façon d'être. Et souvent, on a ces images, par exemple, on a Dieu le berger, on a Dieu le roi, on a Dieu celui qui guérit, on a beaucoup d'images qui nous aident à mieux comprendre Dieu. Et Dieu, bien sûr, il est bien au-dessus de toutes ces images-là. Mais dans chaque image, il y a quelque chose de très important à saisir, parce que c'est quelque chose qui touche nos vies. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. Alors, vous l'aurez jamais vu en hébreu ou dans le grec, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de Dieu, votre styliste. D'accord? Dieu, votre styliste. Et le titre que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est le prêt-à-porter de Dieu. D'accord? Donc, pour tout ça... Oh, Anthony, elle est très enthousiaste, là. Ça va... C'est là? Ah bah oui, c'est de la très haute couture, et on va voir. Parce que c'est simplement une manière de parler dans la Bible qui nous donne une image très concrète qu'on peut comprendre de comment Dieu nous traite, comment Dieu est avec nous, ce qu'il a préparé pour nous. Et donc c'est vraiment important de comprendre la garde-robe que Dieu a préparée pour nous. D'accord? Donc c'est notre sujet. Et souvent quand je prêche, je prends une histoire et on raconte une histoire. Et là, vous êtes tous en train de dire, oui, elle va parler de Joseph aujourd'hui. Non, je ne vais pas faire ça. Parce qu'aujourd'hui, on va vraiment faire Genèse à l'Apocalypse avec quelques petits trucs au milieu. D'accord? Donc j'espère que vous êtes prêts parce qu'on va bien voyager dans la parole aujourd'hui. Et on va commencer dans le livre de Genèse, parce que c'est bien le début, d'accord? Et on va prendre deux versets qui donnent cette première image de comment Dieu nous habille. Comment Dieu nous habille. Et donc, dans Genèse 2, verset 25, donc tout au début, et on est au moment de là où Dieu met son esprit sur l'homme, ça fait vivre, il souffle. Et ça fait vivre. Et l'homme, c'est marqué, l'homme et sa femme étaient tous deux nus, sans en éprouver aucune honte. Donc voilà, on a cette image tout au début. Bon alors, pas de vêtements. Pas besoin d'un styliste parce que pas de vêtements. Et il y a cette idée, bien sûr, c'est aussi une image spirituelle. Sans éprouver aucune honte. Là, dans un état où on est en relation avec Dieu, il n'y a rien qui pourrait mettre de la honte, parce qu'on n'est pas encore dans le péché. D'accord? Et puis, on voit en Genèse 3, et là, c'est Adam et Ève, ils ont cédé à la tentation, et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Verset 7. Aussitôt, les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Vous avez tous vu des images dans les tableaux médiévaux où voilà, on voit les feuilles de figuier bien placées. Et donc voilà, ça c'est la tentative d'Adam et Ève de se couvrir. Okay, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de porter une feuille de figuier, mais... mais à ce moment-là, Dieu y vient à leur recherche et il se cache parce que c'est après le péché. Et maintenant, il y a quelque chose qui les sépare de leur relation avec Dieu. Et Dieu vient à leur recherche, bon, il sait très bien où ils sont parce que voilà, c'est Dieu. Mais il crie, il dit « Adam, t'es où ? Ève, t'es où ?» Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'ils se sont cachés parce qu'ils avaient honte. Et là, on voit toute l'histoire, ça sort. Ah oui, c'est elle qui m'a fait faire ça. Et Adam, c'est elle. Et Ève, c'est non, c'est le serpent qui a dit ceci, cela. Mais bref, ils ont péché, tous les deux, ils ont péché. Et donc, il y a un jugement de Dieu qui tombe. Et Dieu explique ce jugement. il explique comment va être la vie à partir de ce moment-là. Et ça va être dur, parce qu'il y aura ce mur de séparation entre l'homme et la femme et Dieu, qui ont été créés pour être en relation. Et puis on voit quelque chose de très intéressant. Le verset 21, après ce jugement, après tout ce que Dieu a dit, c'est marqué « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. » Alors déjà, c'est un peu plus consistant que les feuilles de figuier. Mais il y a quelque chose de très intéressant dans cette image-là. Parce que, vous savez, Adam et Ève, ils n'étaient pas encore plus nus après avoir cédé à la tentation. Ce qui s'est passé, c'était quelque chose de spirituel qui avait changé. Parce qu'ils sont exposés pour la première fois à la peur, à la honte, à la séparation de Dieu. Et le péché a le même effet aujourd'hui. Quand on est séparé de Dieu, on est exposé à la peur, à la honte, et on a du mal à gérer ces choses-là. Et car Dieu, il aime ses créatures. Il aimait Adam. Voilà, il y avait un jugement sur eux, mais il les aimait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un animal pour les couvrir. Et il y a certains théologiens qui disent que c'est la première fois qu'on voit dans la Bible cette idée d'un sacrifice qui est fait pour rétablir quelque chose. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas une experte là-dessus, donc voilà, je vous donne l'avis de certains théologiens. Mais je trouve ça intéressant comme image, que c'est, non, il faut qu'on fasse quelque chose. Dieu a dit, il faut que je fasse quelque chose pour qu'on puisse quand même avoir une communion ensemble. Et donc, on voit la même idée qui revient dans ce système de sacrifice de la loi de Moïse, qu'il fallait sacrifier un animal, justement, pour couvrir le péché. Et donc là, c'était tout au début. Donc, tout au début, Dieu a dû nous habiller à cause de notre péché. Et on voit ça dans cette image d'Adam et Ève. Et donc, dès le début, Dieu, il a toujours pris soin de nous fournir les vêtements dont on a besoin. Et aujourd'hui, on va découvrir certains habits qu'il a préparés pour nous. Et puis, un deuxième point qui est important de souligner, c'est que Dieu non seulement fournit les habits, mais pour certains de ces habits, c'est lui qui nous habille. On n'est pas capable de nous habiller nous-mêmes. Vous savez, parfois, avec les petits-enfants, ils sont incapables de s'habiller eux-mêmes, parce que voilà, ça part tout à l'envers, ils n'arrivent pas à faire les fermetures. Et donc, on a besoin du parent, on a besoin du père, on a besoin de la mère pour mettre les habits. Et on voit que dans la Bible, il y a une distinction très claire entre les vêtements où Dieu nous habille, lui-même, et puis les vêtements qui sont à notre disposition. Et donc, on va commencer avec ces vêtements où c'est Dieu, le Père, qui nous habille. Et premier exemple, c'est en Ésaïe 61, verset 10. Et c'est marqué, « Je serai plein de joie, l'Éternel en sera la source. J'exulterai à cause de mon Dieu, parce qu'il m'aura revêtu des habits du salut et qu'il m'aura enveloppé du manteau de justice. » Alors, nous n'avons pas la possibilité, nous-mêmes, de nous revêtir des habits du salut. Il est impossible pour moi d'aller chercher le salut quelque part et de le mettre. J'ai besoin de Dieu pour me vêtir dans le salut. C'est quelque chose qui vient de lui. Nous sommes impuissants face à notre péché et c'est seulement par la grâce de Dieu, seulement par la grâce de Dieu, que nous sommes habillés dans le salut. Et comme Adam et comme Ève, nous avons besoin d'avouer notre séparation de Dieu qui nous rend nus spirituellement. Mais nous ne pouvons pas nous habiller de manière convenable tout seul. Dieu, c'est par sa grâce qu'il nous habille de son salut et de sa justice. Et on voit bien que c'est son manteau, ça, voilà, c'est tout autour, ce manteau. Et donc, la Bible nous donne une image très claire des habits de salut et de justice. Et elle parle souvent des vêtements blancs. Quand vous lisez la Bible et vous tombez sur cette expression de vêtements blancs, c'est là on est en train de parler du salut de Dieu, de la sanctification de Dieu. Et c'est une image de la sainteté que Dieu met en œuvre en nous. Et vous vous souvenez peut-être du message que Jésus a dit à l'église à Laodicée. Donc c'est tout à la fin de la Bible, on est en Apocalypse. Parce que souvent, lorsqu'on parle de cette église-là, on parle souvent de cette idée qu'ils étaient ni chauds ni froids, et voilà, que Dieu n'était pas très content, parce qu'en tant qu'eau, ça ne servait pas à grand-chose. Et l'image vient de l'eau qui coulait dans la ville, parce qu'en fait, la source d'où l'eau venait, c'était une eau tiède. Donc, c'était une eau qui n'était pas bon à boire, parce que c'était tiède. Je ne sais pas si vous avez bu de l'eau tiède. C'est pas génial. Et Jésus disait à cette église-là, vous êtes un peu comme ça. Vous êtes un peu comme l'eau qui coule dans votre ville. Et souvent, on arrête là, à cette image de l'eau. Mais en fait, Jésus, il continue à parler à cette église-là. Et en Apocalypse 3, 17, donc c'est Jésus qui parle à cette église-là. Il dit, tu dis, je suis riche. Tu dis, je suis riche. J'ai amassé des trésors. Je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable et que tu es pauvre, aveugle et nu. Donc tu dis, je suis riche. Et tu ne te rends pas compte, en fait, que tu es nu. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Il donne un conseil. Il donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Achète des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité. Alors ça, c'est intéressant comme verset parce que là, on est... Est-ce qu'il est en train... Mika, tu peux mettre le verset, s'il te plaît ? On voit là, il dit « achète chez moi ». Est-ce que Jésus est en train de nous dire qu'il faut qu'on achète notre salut ? Parce qu'il dit qu'il faut qu'on achète les vêtements blancs. Ouh, question. Et là, vous ne savez pas quoi dire, parce que vous ne savez pas quelle est la bonne réponse. Mais Jésus dit « achète chez moi ». Mais il utilise cette image-là avec, voilà, il a un autre verset en tête. Un autre verset de la parole, parce que il pense à cette eau qui est désagréable à boire parce que c'est tiède, parce que c'est pas bien froid, c'est pas quelque chose qui rafraîchit. Et il pense à un verset en Ésaïe 55, verset 1 et 2, qui dit « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter, manger. Venez acheter sans argent. Acheter sans argent. » Et donc, ce que Jésus est en train de dire à cette église-là, c'est « Il suffit de venir à moi et vous aurez vos vêtements blancs. Je vous dis d'acheter, mais bon, c'est pas acheter dans le sens « il faut que je paye ». C'est non, mais c'est « venez à moi ». Il dit à la fin de ce verset-là, « Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas ?» Pourquoi ? Vous avez mis votre argent dans le mauvais endroit. Mais écoutez-moi et vous vivrez. Et donc ça, c'est son message. Donc ce qu'il veut pour cette église à Laodicée, c'est qu'ils aient des vêtements blancs, qu'ils aient cette sainteté, qu'ils aient ce salut qui va leur coûter rien sauf de venir à Jésus pour vivre, pour avoir ce qu'il faut, pour avoir de l'eau qui est agréable à boire. Et ça, c'est son message à cette église-là. Parce qu'il dit qu'il faut couvrir la honte de la nudité spirituelle. Quelque chose qui est ancré dans cette idée du péché. Et donc, pour couvrir la honte de notre nudité spirituelle, qui nous est imposée par le péché, on a tous péché, la Bible dit, on a tous péché, Dieu, il nous habille avant tout de son salut. Donc, ton vêtement blanc est gratuit. C'est une bonne nouvelle. Si vous n'avez pas encore votre vêtement blanc, Vous aurez l'occasion, à la fin de ce culte, d'avoir votre vêtement blanc gratuit. D'accord? C'est là. C'est réservé pour vous. Il y a même votre nom dessus. C'est bon. Et c'est comme si on a ce genre de sous-vêtements de base. Alors, vous avez vu des sous-vêtements techniques? Voilà. Là, on est prêt pour agir parce qu'on a notre sous-vêtement de base. C'est les sous-vêtements techniques. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dedans. Vous êtes confortable. Vous êtes protégé du froid. S'il fait chaud, ça va, ça évacue la sueur, etc. Donc voilà, ça c'est votre salut. Là. Il y en a même avec les capuches. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je vois que vous êtes ravis de cette idée de porter votre sous-vêtement de salut. Mais c'est vraiment ce que Dieu met à la base de tout. Ça, c'est votre salut. Dieu, il met ça, vous êtes incapable de mettre ça vous-même, et Dieu le met. Dieu vous habille comme ça. Et donc, mais Dieu, il est généreux envers nous. Il ne nous laisse pas simplement avec cette, voilà, sous-vêtement de haute performance, même si c'est très utile. Parce qu'il nous habille aussi de la joie. Et je veux passer un peu de temps sur la joie ce matin, parce que je pense que souvent nous avons une idée un peu tordue de ce que c'est la joie. La Bible parle beaucoup de la joie. Et souvent, on a l'impression que la joie, c'est quand je rigole, c'est quand je suis dans la folie. Et ça peut se manifester comme ça, tout à fait. Là, il n'y a pas de souci, on peut être très joyeux, on peut faire beaucoup de bruit. Mais la joie que Dieu nous donne, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Et on parlait avec les jeunes il y a quelques semaines de cette idée de joie. Et on disait qu'en fait, la joie, c'est quelque chose qui est enraciné très, très profondément. En soi. Et c'est quelque chose, c'est comme un sentiment de hyper bien-être, qui fait que vous réagissez bien dans les circonstances. Ça c'est la joie. Alors, ça veut dire que parfois, vous allez éclater de rire, parce que c'est la joie comme ça, mais parfois, ça va simplement être « Oh, je suis bien !» « Oh, je suis bien !» Vous avez eu des moments comme ça où vous n'avez pas forcément besoin de rigoler ou autre, mais vous êtes tellement bien. Et ça, c'est la profondeur de la joie que Dieu veut nous donner. Et la Bible nous dit que c'est une habit, et c'est Dieu qui le met sur nous. Et le psaume 30 nous dit qu'il a ôté nos habits de deuil pour nous revêtir d'un habit de fête. Je pense que c'est la version de Louis II qui dit « Il nous a ceint de la joie ». Donc, il y a vraiment cette idée de Dieu, il va enlever ça, il va enlever l'esprit de deuil, les habits de deuil, et il va nous revêtir avec les habits de fête. Donc, Dieu, il a envie qu'on soit en route pour la fête ou à la fête. Il n'a pas envie de nous voir dans des vêtements, dans la tradition à l'époque, quand c'était écrit, cette partie de la Bible était écrite, quand on était en deuil, on mettait les vêtements les plus inconfortables qu'on avait. C'était une genre de tissu, on faisait des sacs pour mettre le grain dessus, donc ça grattait la peau, on mettait les cendres sur la tête, et c'était pour manifester son deuil. Je pense qu'il y a même peut-être les cultures aujourd'hui où ça se fait toujours. Mais ce n'était pas rien d'enlever les habits de deuil. Ça veut dire que ça ne gratte plus. Vous n'êtes pas en train de faire ça. Vous êtes libre de ces choses-là. Et donc, ces habits de fête, notre salut, notre joie, ces deux choses-là, c'est Dieu qui nous habille de la joie. C'est Dieu qui nous habille du salut, c'est Dieu qui nous habille de la joie. On n'a pas à aller chercher notre joie, quelque part. Dieu nous habille de cette joie. Et il y a un moment où David prie en psaume 51. Il dit, c'est un moment de repentance profonde pour lui. C'était un péché qui pesait très lourd sur lui. Et ce qu'il prie, c'est « Rends-moi la joie de mon salut. » Rends-moi la joie de mon salut. Parce que David, il savait que les deux choses étaient liés. Le salut et la joie sont deux choses, tu ne peux pas les séparer. Tu ne peux pas les séparer. Et Jésus, il a même insisté là-dessus. Avec ses disciples, il y avait un moment, peut-être vous vous souvenez, il envoyait ses disciples deux par deux. Ils avaient passé leur période de formation et maintenant, il les envoie pour prêcher la bonne nouvelle, pour aller guérir les malades, pour faire tout ce que nous, on est appelés à faire aujourd'hui, en fait. Et il les envoie pour prendre l'autorité sur les esprits des ténèbres aussi, qui avaient un impact, une influence très pesante sur la vie des gens. Et à leur retour, les disciples, c'est marqué dans la Bible, ils sont remplis de joie. Ils sont hyper surexcités, en fait. C'est « Wow, on est revenus et c'était génial !» Et « On a prié pour ça et ça s'est passé, on a fait ça et ça s'est passé. » Et même les démons ont répondu dans l'obéissance quand on avait dit des choses dans ton nom et voilà, ils sont partis. Et c'était génial. Donc on peut un peu imaginer la scène. Honnêtement, je pense que si nous, on faisait la même chose aujourd'hui, j'imagine que le dimanche suivant, quand on était tous ensemble, il y aura peut-être le même... On a vu une quinzaine de personnes guéries et on a vu... Et c'est super. Je suis pas en train de dire que c'est pas super. Mais Jésus leur dit... Bah déjà, il dit, oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça, ouais. J'ai vu, il dit, j'ai vu Satan tombe. Et... Mais puis, il dit quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose que j'ai déjà partagé avec l'équipe de louange. Il dit en Luc 10, 19, il dit, écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Et on peut avoir l'impression que Jésus est un peu... Allez, arrête. Arrêtez la fête, là. Non, non, vous réjouissez pour les mauvaises raisons. C'est pas bien. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que... parce qu'on lit dans le verset suivant, Jésus, il est super content de ce qui se passe. Le verset suivant dit que Jésus, il était transporté de joie avec le retour des disciples. Mais il leur donne ce conseil très important. Je vous dis pourquoi c'est important. C'est parce que ta joie doit toujours être basée sur quelque chose qui ne change pas. Et le fait que tu es sauvé, ça ne change pas. C'est quelque chose, ton nom est écrit dans les cieux. Et ça ne change pas, ton avenir est assuré. Ça ne change pas. Et quand on passe par les épreuves, ici les disciples sont revenus et c'était génial parce que leur prière avait été exaucée comme ça et ils avaient vu les trucs miraculeux et c'était magnifique. Mais si notre joie est basée sur ces choses-là, ça veut dire que pendant les moments d'épreuve, on va plus pouvoir être joyeux. Si c'est toujours dans les victoires du moment que notre joie est basée, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être joyeux. Comprenez-moi bien. Mais ça, ce n'est pas la base de notre joie. La base de notre joie, c'est dans le fait qu'on est sauvé. Oh amen. Ouais, je suis sauvé. Chouette.
Amen.
Si vous voyez vos têtes là, c'est marrant. C'est quelque chose, je ne sais pas, est-ce que vous pensez à votre salut très souvent? Je pose la question parce que je me suis posé la même question et je me suis dit, en fait, non, pas trop. Et c'est important pour notre joie, c'est important pour notre état d'esprit de se dire régulièrement, je suis sauvée. Je suis sauvée, je suis amie de Dieu. Mon avenir est assuré. Je sais où je vais. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'aime. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a tout fait pour moi. Je sais qu'avec lui, je suis plus que vainqueur. Je sais. Et on commence à faire ça et c'est « Ouais, je suis dans la joie. » Et c'est quelque chose dont on a besoin. On a besoin de penser un peu plus, je pense, à notre salut. Parce que c'est quelque chose que parfois on le prend comme acquis. Et c'est acquis. C'est acquis à cause de ce que Jésus a fait. Mais il faut qu'on réfléchisse un peu plus là-dessus. Et donc que notre joie soit basée sur ça, plutôt que basée, même si les autres choses nous rendent joyeux, etc. Et parce qu'on ne veut pas être les chrétiens instables. Bon, moi, en tout cas, je ne veux pas être un chrétien instable. Et si je vais être stable dans ma joie, il faut que je base ma joie dans le bon endroit. Donc, l'autre chose avec le salut, c'est que ça nous donne, notre salut nous donne accès à Dieu. Et la Bible nous dit que la plénitude de joie se trouve dans la présence de Dieu. Ça, c'est en psaume 16. Donc, la plénitude de Dieu, c'est dans la présence de Dieu. Et donc, il y a tant de raisons pour être heureux pour notre salut. Et donc, si Dieu nous habille de son salut, il nous habille aussi de la joie. Et ses vêtements viennent de lui. Il nous les met personnellement et personne ne peut nous dévêtir de ces choses-là sans notre volonté, contre notre volonté. C'est impossible. On dit, oui, ça me vole ma joie. Mais ça, c'est parce que tu l'as permis. C'est parce que tu l'as permis. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui l'a mis. C'est Dieu qui a mis cet habit de joie. Et c'est seulement si on se laisse prendre notre joie que ça va partir. Parfois, il faut juste savoir où chercher. Et ça, on va voir. Parce que parfois, c'est vrai, je ne sais pas pour vous, on n'a pas forcément l'impression d'être bien vêtu de la joie. Qui a déjà passé par un moment où la joie ne semblait pas le vêtement de... Ouais, quelques-uns. Les plus honnêtes parmi vous, c'est très bien. Il y a un passage prophétique en Ésaïe 52 qui annonce comment Jésus va payer notre salut. Donc c'est bien avant la vie de Jésus, mais ce passage-là, ça parle de comment Jésus va payer notre salut. Et c'est Dieu qui parle à son peuple. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Donc Ésaïe 52, il dit « Réveille-toi! Réveille-toi! Sion !» Donc c'est un mot qu'on utilise pour parler au peuple de Dieu. « Pars-toi de ta force, mets tes habits de fête, Jérusalem, aux villes saintes. » Vous voyez encore, il y a ce lien entre sainte, ce qui est sanctifié, et la joie, la fête. « Secoue donc ta poussière, relève-toi Jérusalem, installe-toi, délivre-toi des chaînes qui enserrent ton cou, toi qui es prisonnière aux filles de Sion. » Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Parce qu'il est « Secouez-vous !» Secoue-toi. Il est en train de dire, mais rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez, vous avez oublié qui vous êtes. Rappelez-vous qui vous êtes. Les hommes et les femmes choisis de Dieu, rachetés par Dieu, libérés par Dieu. C'est un passage qui parle du salut de Dieu, du fait que ce peuple avait été racheté. Et Dieu, il leur dit, j'ai fait ce qu'il faut faire. Je vous ai libérés. Alors maintenant, enlevez ces chaînes autour du cou et relevez-vous. Habillez-vous. Si vous mettez de la joie, vous serez fort. C'est ce qu'il est en train de dire. Pars-toi de ta force. Pars-toi de ta force. Mets tes habits de fête. La Bible nous dit que la joie que donne l'Éternel est ta force. C'est un verset qu'on cite souvent comme ça. Oui, la joie de l'Éternel, c'est ta force. Soyez fort. Mais ça vient d'où? Vous savez, c'est quand vous mettez vos habits de fête que vous êtes le plus fort. Oui, vous avez entendu ça? C'est quand vous mettez vos habits de fête que vous êtes le plus fort. C'est ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas quand vous mettez l'armure de Dieu, vous êtes le plus fort. La Bible dit, c'est quand vous mettez vos habits de fête. Bien sûr, il faut célébrer les bonnes choses. Ce n'est pas juste faire la fête pour faire la fête. Mais c'est fêter les choses que Dieu nous a données, de fêter, de célébrer. Et c'est là qu'on trouve notre force et on sera habillé de la force. Pars-toi de ta force. Et ça, c'est pourquoi Or, elle a fait ce matin. C'est pour ça qu'on vous encourage pendant nos chants de louange, pendant le culte, de louer le Seigneur. Parce qu'Ésaïe 61, encore un passage qui parle prophétiquement de l'œuvre de Jésus, nous dit qu'il est venu pour nous vêtir d'habits de louange, au lieu d'un esprit abattu. Et ça, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Alors, je sais pas s'il y a des gens ici qui se lèvent le matin, qui cherchent dans l'armoire. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de mettre un esprit abattu. Mais ça vous arrive? Moi, non, personnellement. Parfois, je trouve que je suis en train de le porter et je sais pas d'où ça vient. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Hop, parti. Je vais mettre mes habits de louange. Parce que Dieu a fait en sorte qu'il y a les habits de louange à disposition. Le fait de pouvoir louer, c'est un don de Dieu. Et Dieu, il dit, voilà ce que je vous donne. Je vous donne des habits de louange. Et c'est justement pour remplacer quelque chose. C'est pour remplacer cet esprit abattu. Et donc, la joie de notre salut nous mène, va nous mener à louer Dieu. Et nos chants nous rappellent ce que Dieu a fait pour nous. Voilà, on commence à penser, on a chanté ce matin, car tu es mort pour moi, je vivrai pour toi, tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Qu'est-ce qu'on a fait? On a chanté notre salut. Et quand on chante notre salut, ça fait quelque chose en nous. On a notre habit de salut, mais on commence à mettre les habits de louange et nos habits de fête. Et c'est ça qui nous rend fort. C'est ça qui nous rend fort. Et c'est pour ça que ces moments de louange, quand vous venez le matin et que vous avez un peu de mal, parce que bon, ça arrive parfois, je vous encourage d'écouter les encouragements du leader de louange. Parce qu'on est là pour vous aider à mettre vos habits de louange. Si vous avez du mal à vous habiller vous-même, voilà, on est en famille là, et on va tout mettre nos habits ensemble. Donc saisissez l'occasion pour mettre vos habits de louange, parce que c'est ça finalement qui va vous rendre fort. D'accord? Alors, donc on est fortifié en conséquence avec ces habits-là, on est plus fort. Donc, on parle du salut, on parle de la joie, nos sous-vêtements de haute performance. Mais Dieu, il ne nous laisse pas dans nos sous-vêtements. C'est une bonne chose, hein? Surtout les sous-vêtements comme ça. Parce que en fait, Dieu, il a toute une garde-robe à proposer pour nous. Et vous allez voir, quand vous lisez la Bible, par-ci, par-là, on voit ces images de vêtements que Dieu nous donne. Et cette garde-robe, justement, c'est pour être bien nous-mêmes, mais c'est aussi un témoignage envers les autres. Et au contraire du salut et de la joie, où c'est Dieu qui nous habille, pour ces vêtements-là, c'est à nous de mettre ces vêtements. Et je vais vous donner quelques images des vêtements. Donc imaginez maintenant, vous vous levez le matin, vous avez déjà votre salut, vous avez déjà votre joie, vous ouvrez votre armoire, votre dressing, vous ne foyez pas sous le lit si vous êtes étudiant, et vous dites, bon, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? On a déjà décidé que l'esprit abattu, c'est pas ce qu'on veut mettre. Donc, on va chercher autre chose. Et Paul, on a quelques exemples de ce que Paul rappelle aux églises pour les habits, pour les vêtements qui sont pour nous les gens de Dieu, les peuples choisis, aimés de Dieu. Donc, plusieurs fois dans le Nouveau Testament, on tombe un peu sur les mêmes versets. Paul y dit plusieurs fois la même chose aux églises différentes. Et on va prendre ici juste un exemple de sa lettre à l'église de Colosse. En Colossiens 3, verset 9, donc il est en train d'écrire une lettre à une église, les chrétiens. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 9, « Ne vous mentez pas les uns aux autres. » Car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Alors, j'ai déjà prêché sur ça une fois, donc je ne vais pas le refaire, mais l'homme nouveau. Quand on se lève le matin, on a un choix. Soit on prend, l'ancien, soit on prend le nouveau homme, le nouvel homme, la nouvelle femme. Quand on se lève le matin, on a un choix. On a un choix. Est-ce que je vais choisir de vivre comme avant ou est-ce que je vais choisir de vivre comme la nouvelle créature que je suis? Comment est-ce que je vais m'habiller? Voilà, aujourd'hui, je prends la nouvelle femme. Je préfère la nouvelle femme, j'avoue. Je pense que Paul préfère la nouvelle femme aussi. Parce que bon, c'est pas terrible la version autrefois. Donc celui-ci se renouvelle pour être l'image de son créateur. Là, c'est une bonne raison pour se revêtir de la nouvelle femme. Parce que comme ça, voilà, je commence à ressembler plus à mon créateur. Je commence à ressembler plus à Jésus. Donc voilà, ça c'est mon premier choix. Bah, ancienne femme, nouvelle femme. Ancien homme, nouvel homme. Okay? Premier choix. Et puis dans le même passage, il continue. Paul, il continue à enseigner cette église-là. Il a toute une liste d'habits à mettre. Donc, ce n'est pas juste qu'il y a une chose dans l'armoire-là, il y a plusieurs. Verset 12. « Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime. » Ça, c'est une bonne raison de s'habiller, déjà. On appartient à Dieu et il nous aime. Donc, voilà la garde-robe qui existe pour nous. « Revêtez-vous d'ardente bonté. » Okay, vous mettez votre ardente bonté. De bienveillance. Voilà, pantalon de bienveillance. D'humilité. De douceur. De patience. Ce sont des vêtements, dans cette image-là, ce sont des vêtements qu'on peut choisir de mettre ou pas. Alors, je ne sais pas comment vous vous êtes habillé ce matin. Et si ces choses-là figurent sur ce que vous êtes en train de porter. Peut-être certains, peut-être moins d'autres, peut-être vous n'avez pas encore passé votre patience, et donc c'est resté à la maison. Mais il y a une image là qui est très forte, parce que dans ce passage-là, Dieu il est en train de dire, vous avez un choix. Paul dit, choisissez bien comment vous allez vous habiller. Choisissez bien, parce que c'est à vous de vous habiller. Dans ces choses-là. Moi, j'ai fait le nécessaire. Maintenant, habillez-vous. Habillez-vous avec les choses que j'ai préparées pour vous. Et puis, par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour. Alors, on a beaucoup entendu sur l'amour. Je ne vais pas encore reprêcher sur l'amour. Mais j'aime bien l'expression ici. Mick, tu peux. Ensuite. Revêtez-vous de l'amour, qui est le lien par excellence. Vous savez, ce n'est pas le hasard que c'est appelé un par-dessus. Ce n'est pas un hasard que l'amour, c'est le par-dessus. Parce que l'amour, c'est ce qui est visible au-dessus de toute autre chose. Vous pouvez avoir la patience, vous pouvez avoir l'humilité, mais s'il n'y a pas de l'amour, au-dessus, le témoignage envers le monde, c'est moins efficace. On a besoin de mettre l'amour. Alors, chacun son style. OK, on a les par-dessus un peu plus... Voilà, j'ai pensé à Alice quand j'ai vu le premier là, parce qu'elle a un par-dessus qui est vraiment très, très chaud, très agréable pour l'hiver. Voilà, on a les par-dessus un peu plus chic. Un peu plus classe. Et donc, l'amour, ça n'a pas la même image sur tout le monde. On est tous différentes, on a tous les manières de démontrer. Donc, ce n'est pas qu'on va devenir les clones. On ne va pas tous mettre exactement la même chose de la même façon et ça fait un peu ouvrier dans les usines où tout le monde est dans le même uniforme. Et puis, pour moi, ça, c'est mon par-dessus. Donc, je trouvais ça très, très apte. C'est bien chaud et voilà, ça affiche clairement qui je suis. Donc le par-dessus de l'amour, ça, c'est un vêtement que, même s'il n'y a rien en dessus, c'est quelque chose qui se voit. Même si vous n'avez que vos sous-vêtements et votre par-dessus, bah, vous pouvez quand même aller acheter votre pain. Donc c'est vraiment très l'amour c'est vraiment très très important. Et donc le prêt-à-porter de Dieu ça ne termine pas là. Là on a vu juste quelques images de ce que Dieu a mis à notre disposition. La Bible aussi nous dit que Dieu nous revêt de sa puissance. On lit dans le livre d'Actes qu'on est revêtu de la puissance de Dieu. Par qui d'ailleurs toutes ces choses deviennent possibles. C'est très difficile de vivre dans l'humilité, dans l'ardent de bonté, dans la patience, etc. si on n'est pas aussi habillé du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui travaille ces choses en nous et qui nous permet de vivre ces choses pleinement. Mais il y a juste un résumé que j'aime très bien pour cette image de vêtements. Et c'est en Romains 13, verset 14. Et encore, c'est Paul qui est en train de lire. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit simplement, revêtez-vous de Jésus-Christ. Parce que tout ce qu'on a dit là, on a parlé du salut, on a parlé de la joie, on a parlé d'humilité, de bonté, de... Voilà, toutes ces choses-là, ce sont les choses qu'on voit en Jésus. Et si on a besoin de chercher un modèle, c'est vrai qu'il y a les modèles autour de nous, et c'est bien de tirer l'exemple des bons modèles qu'on a autour de nous, mais finalement, notre exemple va toujours être Jésus. Et on peut être revêtu de Jésus. Et il n'y a pas meilleur moyen de montrer qui nous sommes que de se dire aujourd'hui, je vais m'habiller en Jésus. Parce qu'il nous couvre, ce qu'il a fait nous couvre de nos péchés, ça nous donne accès à notre Père, ça nous donne accès à la joie. On voit comment Jésus a agi avec les gens autour de lui sur terre. Nous avons ce modèle-là, on n'a pas besoin de chercher ailleurs pour voir qu'est-ce que ça fait d'être revêtu en Jésus. Bah, lisez les évangiles et vous allez voir ce que ça fait d'être revêtu en Jésus. Mais j'aimerais terminer avec un dernier verset qui se trouve en fait, ça se trouve en plein milieu d'un passage un peu sombre, en fait, dans l'Apocalypse, qui parle du jugement de Dieu à la fin. Et ça parle de ce dernier jugement et ça parle de la justice de son jugement. Mais au milieu de ces expressions de comment la colère de Dieu va se manifester à la fin des temps, on lit ce verset, c'est en Apocalypse 16, verset 15. Et encore une fois, c'est Jésus qui parle. Il dit, voici, je viens comme un voleur. Je viens comme un voleur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va piquer les choses. Ça veut dire qu'il vient sans annoncer son venu. Donc, entre parenthèses là, méfiez-vous des gens qui disent, ah oui, on peut calculer la venue de Jésus, ça va être ce jour-ci, on peut voir en fonction de ce que la lune va faire, etc. Méfiez-vous de ce genre de choses-là, parce que la Bible est très claire. Jésus, il ne dit pas, bah, je viendrai là la semaine prochaine à 15 heures, donc soyez prêts. Il dit, je viens comme un voleur. J'annonce pas le moment exact où je vais revenir, mais il va revenir. Notre roi va revenir. Donc, voici, je viens comme un voleur. Heureux, c'est bien dans un passage sombre d'avoir un petit mot, heureux, celui qui se tient éveillé et qui garde ses vêtements. Heureux, celui qui se tient éveillé et qui garde ses vêtements. Afin de ne pas aller nu en laissant apparaître sa honte aux yeux de tous. Alors, heureux, ce mot heureux, ça ne veut pas dire, ben, c'est un peu comme la joie, en fait. Heureux, ça ne veut pas dire, ouais, je suis heureux. Heureux, ce mot-là, à la base, ça veut dire que la faveur de Dieu est dans celui qui. Il y a de la faveur de Dieu pour celui qui se tient éveillé et qui garde ses vêtements. Ces choses dont on a souligné là. Bien sûr, bah, le premier de ces vêtements, c'est le salut. C'est le salut, c'est votre habit de salut. Et Dieu, il souhaite avoir un peuple éveillé qui attend son retour. Et je ne sais pas si on attend son retour plus que ça, parfois. C'est un peu comme le salut. Je me demandais l'autre jour, quand est-ce que la dernière fois où j'ai réfléchi au fait que Jésus va revenir? Je ne sais pas pour vous. Il y a les questions qu'on se pose moins souvent. On est beaucoup plus axé sur dans cette prochaine épreuve, comment est-ce que Dieu va me répondre? Mais je ne sais pas si on pense suffisamment souvent au fait que Jésus va revenir. Et ça pourrait être demain. Moi, j'en sais rien. C'est un voleur. Il va venir quand il veut. Mais je veux être éveillé et je veux être habillé comme il faut, avec les vêtements que Dieu a préparés pour moi. Et ma prière pour vous, c'est la même chose. Soyez habillés avec ce que Dieu a préparé pour vous. La déclaration ici, ça confirme sa faveur sur ceux qui sont habillés comme lui a voulu. D'abord, du salut, on a déjà dit, mais de la joie, de la louange, de la justice, de la bienveillance, de l'humilité, de patience, de douceur, et surtout, par-dessus tout, l'amour, revêtu du nouvel homme ou de la nouvelle femme que nous sommes, revêtu en Jésus-Christ. Quand Jésus revient, il veut voir qu'on est là, revêtu en lui. Et donc, aujourd'hui, j'ai juste quelque chose de très simple que j'aimerais faire pour terminer. On va juste prendre une minute et réfléchissez un instant. Quand vous vous levez le matin, est-ce que vous cherchez les bons habits à mettre? Déjà, première question très importante, est-ce que vous êtes habillé du salut? Parce que si vous êtes encore en train de vous cacher derrière les feuilles de figues, c'est triste. Dieu, il a mieux pour vous. Il a vraiment ce qui est beaucoup, beaucoup plus pour toi. Il ne veut pas que tu vives dans la séparation avec lui. Il a tout fait, ce qu'on a chanté ce matin, il a tout fait pour que tu sois habillé du salut, avec ce vêtement blanc qui brille comme ça, et ça qui couvre tout ce qui était mauvais, tout ce qui était sale, tout ce qui était moche, tout ce qui était désagréable à Dieu. Donc, c'est gratuit. C'est gratuit. Ça demande toi, mais ça demande pas d'argent. Ça demande pas autre chose que le fait de venir à Dieu pour le recevoir. Donc, ça, c'est la première chose. Est-ce que tu es habillé du salut? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que Dieu veut faire pour toi. Mais la deuxième chose, est-ce que tu es habillé de la joie? Est-ce que tu as ce sentiment de bien-être profond qui dit, je sais que mon avenir avec Dieu est assuré, que je suis sauvé, que mon nom est écrit dessus? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est ancré au fond de toi? Parce que Dieu veut que tu ressentes cette joie qui vient de là, parce que ça va transformer tout le reste. Si vous avez cette joie qui fait que pendant les moments les plus difficiles, tu peux sourire parce que tu es sauvé. Ça, c'est super important. Et puis, il y a les choses qu'on peut choisir de mettre. Est-ce que tu as bien choisi? L'humilité, la louange, la bonté, je ne vais pas tout citer encore, vous avez vu la liste. Mais comment es-tu habillé? Qu'est-ce qui manque dans ta garde-robe? Qu'est-ce qu'il faut aller chercher? Parce que Dieu, il a rendu disponible ces choses-là. Mais il faut qu'on aille les chercher pour les mettre. Est-ce qu'il y a toujours l'ancien homme, l'ancienne femme qui traîne dans la garde-robe? Est-ce qu'il faut le virer? Est-ce qu'il faut simplement avoir la nouvelle femme, le nouvel homme qui est là à mettre? Donc on va juste méditer ça une minute. Et puis s'il y a les personnes qui aimeraient recevoir de la prière, je vais vous inviter à venir. Que ce soit pour que Dieu te rende la joie de ton salut. Donc, j'ai juste l'impression que ça, c'est la chose pour ce matin. Qu'il y a les personnes qui n'ont pas cette joie de leur salut. Donc, si ça c'est vous, on va donner un moment pour prier pour vous, pour aller chercher dans la garde-robe ensemble. Mais méditons un instant.